Ce matin, comme je l'avais partagé depuis un certain temps, on va commencer une série sur les sept églises de l'Apocalypse. Donc, de voir comment ces écrits peuvent nous toucher aujourd'hui. Si ces écrits ont été mis dans le dernier livre de la Bible, c'est parce que c'était pour dire par rapport à une situation qui se passait dans ces églises qui ont existé, mais c'était surtout aussi pour nous avertir, pour nous recommander, pour nous encourager à voir aussi ce que le Seigneur voulait aussi pour nous. Et ce matin, on va voir la première église, l'église d'Éphèse, où on va voir surtout principalement qu'elle a perdu son premier amour. Donc, ces messages qui sont apportés aux différentes églises sont là pour nous réconforter, pour nous avertir, pour nous montrer des choses que nous devons faire attention afin de ne pas faire comme ces églises, afin qu'on puisse être averti et qu'on puisse être changé et transformé. Nous allons voir que les différents points de ces églises peuvent s'appliquer à chaque église, à chaque chrétien. Hein, ce n'est pas juste les églises terrestres, mais c'est aussi l'église de corps de Christ, c'est aussi nous les chrétiens, puisque nous faisons partie de l'église, nous sommes l'église. Donc ça nous appartient aussi de voir aussi que ces points sont là aussi pour nous. Durant cet été, on a parlé de l'importance d'être renouvelé dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Et voilà pourquoi que ces lettres vont nous aider à être renouvelés, à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu nous écris? Qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ton esprit, à travers ces lettres? Aide-nous à être renouvelés, à être corrigés, instruits par toi, afin qu'on puisse avancer selon tes recommandations. Donc, comme introduction, donc, regardons ce qui a été écrit justement dans ces lettres, comment elles ont été rédigées. Donc, le commentateur biblique, McDonald, va dire, l'Apocalypse constitue le point culminant de la Bible. Elle nous révèle l'avenir de toutes choses. Même lecture superficielle devrait constituer pour les incroyants une sérieuse incitation à la repentance et pour le peuple de Dieu un puissant encouragement à persévérer. Donc, ce que le commentateur veut dire, c'est que même pour un non-croyant, on sait que même des non-croyants connaissent l'Apocalypse parce qu'ils l'ont lu, parce qu'ils sont intéressés à savoir. On voit dans l'Apocalypse justement tous ces récits qui nous parlent de l'avenir, qui nous parlent des derniers temps. Et les gens sont intéressés à savoir qu'est-ce que c'est dans le futur. Mais surtout pour nous en tant que chrétiens, c'est une occasion de dire, Seigneur, tu reviens bientôt. Est-ce que je suis prêt à te recevoir? Est-ce que je suis sur le bon chemin qui te mène vers toi? Donc nous savons que c'est l'apôtre Jean qui a écrit le dernier livre de la Bible. Il avait été condamné à cause de sa foi et il avait été déporté sur l'île de Patmos, où il écrit l'Apocalypse, qui veut dire révélation de la part de Dieu. Donc on sait que l'Apocalypse a été rédigé dans les dernières décennies du siècle, donc à peu près 94 moins 96 après Jésus-Christ, vers la fin du règne de l'empereur Domitien. Donc lors de sa ascension, l'apôtre exerçait un ministère à Éphèse et auprès des assemblées que justement il va citer tout à l'heure. Comme il ne pouvait pas les exhorter lui-même et étant donné qu'il était loin de ces églises, et il cherchait l'occasion de les fortifier, il leur envoya justement ces lettres. On peut le voir dans Apocalypse chapitre 1, verset 11. Où on trouve dans Apocalypse chapitre 1, verset 11. Il y a encore des Bibles derrière. Voici ce qu'il dit. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces sept églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc, ces églises connaissaient les premiers effets de la persécution. Au moins une personne probablement responsable avait déjà subi le martyre. On peut le voir dans Apocalypse chapitre 2, verset 13. Et Jean lui-même avait été exilé. Donc, on voit qu'il y avait déjà commencé la persécution qui arrivait. Voilà pourquoi que justement Jean va écrire ses lettres pour encourager. Et on va le voir dans plusieurs de ses lettres comment il encourage les chrétiens à persévérer, à endurer les défis, les épreuves qu'ils vivent. Donc l'apôtre Jean dit que ces paroles, il les a reçues de la part de Jésus-Christ. Ces révélations ont été apportées, non pas pour faire du sensationnalisme, mais comme il est dit au chapitre 1, verset 3, heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Même si peut-être ces écrits ont été écrits il y a plus de 2000 ans, on sait que le temps est proche. Et c'est le temps encore d'écouter ses paroles et d'obéir à ce que le Seigneur veut dire à travers ses lettres. Ces prophéties ont été apportées pour que les personnes puissent les écouter, justement. Soyez avertis que le temps de la fin est proche. Bon, ce n'est pas dans le sens de nous faire peur, mais nous rappeler que nous devons veiller à être attentifs, à garder notre foi solide. Le commentateur biblique MacArthur va dire, l'Apocalypse leur offrait un message d'espérance. Dieu exerce un contrôle souverain sur tous les événements de l'histoire humaine. Si le mal paraît omniprésent et les hommes méchants omnipotents, leur défaite ultime est certaine. Christ reviendra en gloire pour rendre la justice et établir son règne. Amen. Dieu va revenir. Christ va revenir en gloire pour rendre la justice et établir son règne. Même si les gens aujourd'hui peut-être se détournent de Dieu, même si les gens ne sont pas intéressés, le plan de Dieu va s'accomplir au temps voulu. Le Seigneur veut préparer son Église afin qu'elle puisse être pure et sans tache quand il va revenir. Comme nous l'avons dit, nous sommes chacun de nous, l'Église, ce corps de Christ ensemble. Voilà l'importance pourquoi de nous préparer, de nous sanctifier comme on l'a vu dernièrement. Au début de l'année, justement, on avait pris un peu les enseignements, comment écouter Dieu, l'importance d'écouter, comment que Dieu nous parle de différentes manières. Et ensuite, on a vu aussi l'importance, après d'avoir écouté, de mettre en pratique, d'obéir à ce que Dieu veut nous dire. Alors, c'est important, justement, dans ces lectures, dans ces méditations, des réflexions à travers ces lettres, que nous puissions écouter ce que le Seigneur veut nous dire et que nous puissions mettre en pratique. Alors, prochain diable, regardons. Regardons comment que le choix de cette église a été fait. Ce n'est pas un pur hasard, mais nous voyons que c'est stratégique. Premièrement, il y a le nombre 7, qui est un symbole pour Dieu, le nombre parfait. Donc, on voit dans le livre de l'Apocalypse que Jean va utiliser plusieurs fois le chiffre 7. Il va parler des sept sceaux. On le voit dans Apocalypse chapitre 5, verset 1. Il parle des sept trompettes. Apocalypse chapitre 2, 8, verset 2. Les sept coupes, chapitre 15, verset 1. Les sept esprits, les sept chandeliers. Plusieurs fois, on voit comment que Jean reçoit ces informations du chiffre 7. On voit aussi que toutes ces églises se trouvent dans la province d'Asie et sont dispersées un peu comme un arc de cercle. On peut voir un peu. Sur l'écran, ces différentes églises là où elles sont situées. Dans toutes les lettres qui sont envoyées à ces sept églises, la construction justement de la lettre est assez semblable. On voit premièrement qu'il y a une salutation, un rappel de qui est Jésus-Christ, un rapport toujours avec la suite de la lettre. Puis on voit qu'il y a le corps de la lettre avec les félicitations, les remarques, les reproches faits à l'église. Puis ensuite, il y a les recommandations. Ce qu'il faut faire ou changer s'il y a besoin afin d'être trouvé juste. Puis la citation qui est assez semblable aux sept églises, que celui qui a des oreilles écoute ce qu'il dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce qu'il dit aux églises. Alors justement, ouvrons notre Bible dans Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7 et lisons. Lisons les versets qui nous sont donnés. Donc, chapitre 2, verset 1, il dit, à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais ta conduite, ta peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as décelé qu'ils mentaient. Verset 3, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, mais tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Verset 6, et voici pourquoi une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen.
Amen.
Alors, regardons donc tout la ville d'Éphèse. Donc, la ville d'Éphèse, c'est une ville de la région de Lydie, sur la côte occidentale de l'Asie mineure. Éphèse était vraiment placée à la jonction des voies commerciales naturelles, sur l'artère principale allant de Rome à l'Orient. Donc, cette ville était assez prospère et possédait le plus gros port de l'Asie mineure. Elle possédait surtout le célèbre temple d'Artémis qu'on voit sur la photo, juste les restes, qui représentait une divinité mère dont le corps était couvert de mamelles. À la mort d'Attale III de Pergame, en 133 avant Jésus-Christ, Éphèse qui revint romain, donc ils en firent la capitale de la province romaine d'Asie. La ville, elle souffrit justement en l'an 29 d'un tremblement de terre, mais l'empereur Tibère l'a reconstruit plus tard. À la fin de son second voyage missionnaire, Paul, en route pour Jérusalem, accorde une brève visite à Éphèse et prêche dans la synagogue. Et il laisse là Aquilas et Priscille dans cette ville pour qu'ils puissent suivre l'œuvre. On le voit dans Actes chapitre 18 et aussi chapitre 19. Lors de son troisième voyage missionnaire, Paul va travailler 2 ans et 3 mois à Éphèse. Il va quitter la ville après l'émeute qui est provoquée par Dentius, donc ce fabricant de maquettes en argent du temple, parce qu'il redoutait que le message de l'évangile de Paul puisse faire diminuer son travail et son gagne-pain par rapport à tout ce qu'il faisait auprès de cette idole, donc de cette idole Artémis qui représentait cette divinité humaine que tout le monde adorait. Donc Paul va laisser Timothée à Éphèse afin qu'il puisse empêcher l'Église de se corrompre par les fausses doctrines. Plusieurs martyrs chrétiens ont passé par cette ville avant d'être conduits dans les arènes de Lyon. On sait que, peut-être si vous avez vu des films, comment que c'était un spectacle pour les gens d'aller à l'arène et de voir malheureusement des chrétiens persécutés, être comme aussi arrachés et de pouvoir être mangés aussi par les lions. C'est ce qui a valu justement le titre à la ville d'Éphèse des autoroutes des martyrs. Tellement qu'il y a eu par la suite beaucoup de martyrs qui sont tombés dans cette ville. Donc, selon la tradition, l'apôtre Jean passa donc les dernières années de sa vie à Éphèse. Et on sait que le troisième concile de l'Église se tint dans cette ville en 431 après Jésus-Christ, où il précisa le don de la personne de Christ et de ses deux natures qui sont divines et humaines. Donc, on voit que cette ville avait un certain prestige, une ville commercial, une ville qui était vraiment remplie aussi d'idoles et où Dieu a permis qu'il y ait une église qui se fonde. Mais maintenant, regardons qu'est-ce que l'Esprit va dire justement à cette église. Au verset 2, on voit que le Seigneur commence par donner des compliments à cette église, comme une église travaillante, parce qu'elle est engagée dans l'œuvre de Dieu. Elle produisait des fruits. Donc une église travaillante, c'est une église qui travaille pour Dieu et qui donne des résultats, qui donne des fruits. Ici, il n'est pas forcément parlé de croissance numérique, mais de croissance spirituelle. Les gens grandissaient, progressaient dans leur foi. Une église qui ne se relâche pas devant les défis, mais qui continue d'avancer dans la vérité. On a pu le voir nous-mêmes aussi, dans notre propre église, comment que suite à la pandémie, ça a été difficile. Il y a eu des temps difficiles. Mais le fait de pouvoir continuer de persévérer, continuer d'avancer, de regarder au Seigneur, peut permettre de porter du fruit pour Dieu. On voit aussi qu'il va dire que c'est une église persévérante. Elle a persévéré malgré les difficultés et les souffrances. On sait qu'elle a été persécutée, qu'elle a dû connaître des conflits, vivre des scandales. Ce qui montre que cette église a eu des moments difficiles. Mais elle a continué de travailler dans la persévérance. Chacun de nous, on peut avoir des temps difficiles dans des étapes de notre vie. Et c'est vrai que dans ces temps, on a besoin de persévérer. On a besoin de continuer d'avancer avec foi et courage. Parce que nous savons que la persévérance va produire du fruit pour amener notre foi plus grande. Et on sait qu'un jour, on va être délivré par la grâce de Dieu. On voit aussi que c'est une église disciplinée, une église qui exerce sa discipline parce qu'elle voulait, elle désirait se garder pure. Elle ne cherchait pas à plaire à tout le monde, être accepté par la majorité. Ce qui était mal était reconnu et déclaré dans l'Église. Donc, une Église disciplinée qui est capable de discerner s'il y a des personnes qui apportent des paroles qui ne sont pas dans la vérité de Dieu, qui discernent justement des personnes qui font le mal ou qui entraînent d'autres personnes dans le péché. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aime pas trop ce mot discipline dans l'Église. Mais c'est vrai que c'est important de dénoncer ce que nous voyons dans l'Église, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui nous éloignent de la vérité de Dieu. On voit aussi que c'est une Église instruite, l'Église qui est bien équipée de la doctrine, solide dans sa foi. Elle ne donnait pas son assentiment à n'importe qui se disait de Dieu. Au contraire, ceux qui parlaient au nom de Dieu, mais qui étaient des menteurs, elle les démasquait, elle les condamnait. Pour cela, il faut, comme le quatrième terme le dit, être une église instruite, c'est-à-dire une église qui connaît la vérité de Dieu, qui se conforme à la parole de Dieu, qui marche dans la foi d'une façon simple mais juste. Ces erreurs dans les églises, on en voit tous les jours malheureusement, même aussi dans notre propre aussi, notre propre famille d'église méthodiste. On a eu une église qui, à un moment donné, est partie en quelques mois suite à l'arrivée d'un leader, d'un pasteur qui est sorti vraiment des doctrines méthodistes et qui est sorti vraiment, qui a apporté. Et les gens, en quelques mois, ont voulu adhérer à cette nouvelle doctrine que le pasteur était en train de mettre. Et aujourd'hui, on a dû laisser partir cette église loin, ben, plus dans notre famille d'église, parce qu'elle ne correspondait plus à ce que nous pouvons enseigner dans la parole, de ce que nous voulons enseigner en tant que doctrine. Donc, on voit que malheureusement, il y a encore aujourd'hui des églises qui déforment la vérité. Il y a encore des pasteurs, des évangélistes qui essayent, des prédicateurs qui essayent d'apporter leur propre vérité. Voilà pourquoi que nous, en tant que chrétiens, on a besoin d'être instruits, d'être formés, d'avoir la connaissance de Dieu pour dire si réellement, si nous sommes dans ce terrain descendant, si nous sommes dans cette pente qui nous éloigne de la vérité. Voilà pourquoi que on doit démasquer ce qui se passe afin de pouvoir toujours rester dans la vérité de Dieu. N'est-ce pas ce que nous aimerions entendre en tant que chrétiens, que nous aimerions entendre de la part de notre Seigneur pour notre Église, de nous dire, tu es travaillant, tu es persévérant, tu es discipliné, tu es instruit. Prochain diable. Donc, quand nous regardons cette église d'Éphèse, nous voyons qu'elle a toutes les qualités pour être une église qui avance, qui a un impact et qui est dans les voies de Dieu. Mais par la suite, on voit que Dieu fait un reproche. Tu as perdu ton premier amour. Dans le sens que toutes ces qualités que cette église avait développées, elle l'a fait en perdant le but essentiel. Pourquoi elle était une église? C'est-à-dire de le faire dans l'amour de Dieu. Elle faisait toutes ces choses, ces belles choses sans amour. Elle travaillait, mais sans amour. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, mais sans amour. Comment est-ce que c'est possible de faire cela? On peut faire beaucoup de choses, on peut travailler, travailler, travailler pour Dieu, mais sans amour, sans réellement d'avoir cette connexion avec Dieu. On essaye de faire des œuvres pour Dieu, des œuvres que peut-être Dieu ne nous demande pas de faire. Elle était persévérante, mais sans amour. Comme des chrétiens peut-être, de chrétiens de nom, mais qui voyait la vie chrétienne comme plate, ennuyeuse. Elle est devenue comme une église sur le pilote automatique, qui regarde en avant, sans réaliser qu'elle avait perdu l'essentiel. Elle était disciplinée tellement qu'elle avait perdu cet amour pour ceux qui étaient dans l'erreur. Au lieu de pardonner, elle rejetait. Elle est devenue une église exigeante, religieuse, où les règles sont plus importantes que l'amour. Elle était instruite. Elle savait ce qu'était la vérité, mais elle avait perdu l'amour de Dieu. C'était une église froide. Elle avançait dans une habitude tellement grande, dans un rituel qui était tellement bien rodé, qu'il n'y avait plus de vie, plus de réjouissance. C'est devenu comme un automatisme de louer Dieu, d'écouter la prédication de la parole, mais qui ne touche plus les cœurs. Alors il y a une vérité importante. Une église instruite sans amour est froide. Une église seulement en amour sans instruction et immature. Écoutez bien cette phrase. Une église instruite sans amour est froide. On peut connaître la parole de Dieu par cœur, mais si cette parole ne change pas nos cœurs, nous ne sommes plus aimants envers notre Seigneur, Alors, cette instruction que nous avons reçue ne nous rend pas plus aimants les uns les autres. Alors, nous sommes froids, nous sommes sans vie. Cet amour est essentiel pour notre vie avec Dieu, parce que c'est lui qui nous a donné en premier. Et on va le voir justement à travers tout à l'heure la Sainte Cène, de se rappeler tout l'amour que Jésus nous a donné. Lui, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre pour la seule mission de nous racheter à travers le sacrifice sur la croix. Nous avons tout ce qu'il faut pour être une bonne personne ou un bon chrétien. Mais s'il manque cet amour, alors on n'a rien. Tous nos gestes, toutes nos paroles, tous nos témoignages doivent être empreints d'un amour réel de Dieu et aussi d'un amour vers les autres. Prochain diable, qu'est-ce que dit Jésus justement à une personne qui lui demandait c'est quoi le commandement le plus important? Hein? Matthieu chapitre 22, verset 37-39. Matthieu chapitre 22, verset 37-39, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rappelez-vous les premiers temps de votre conversion. Comment nous étions enflammés, comment nous étions prêts à tout pour bousculer pour annoncer l'amour de Dieu. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on continue de connaître Dieu, on continue d'avoir du bon temps avec nos frères et sœurs dans l'Église, mais petit à petit, des fois, cet amour se refroidit. On pardonne moins souvent aux autres, on est plus dur envers nos frères et sœurs, on reproche souvent aux autres qu'ils n'ont pas fait ce qui n'est pas juste, qu'ils n'ont pas fait de bien. Chacun de nous, à un moment donné dans notre vie, nous pouvons perdre ce premier amour vers Dieu. Nous pouvons vivre notre vie chrétienne comme un certain automate, sans éclat, sans changement, sans bénédiction. Et Dieu veut encore nous dire ce matin, si mon amour envers toi n'a pas changé, moi je suis resté le même vers toi. Oui, l'amour de Dieu n'a pas changé envers moi. Il restait toujours le même. Mais il nous pose la question, mais toi, vis-tu ta vie face à moi? Comment tu vis ta vie face à moi? Est-ce que c'est possible que tu as besoin de retrouver cet amour, cette fougue, cette hardiesse que tu avais pour moi au début de la vie? Une question tout à fait légitime que chacun de nous doit se poser. Alors, prochain diable, qu'est-ce qu'il va dire justement à cette église dans le verset 5? Il lui dit, allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Change et reviens à ta conduite première. Donc, il dit qu'il se rappelle où elle est tombée, de regarder en arrière, de voir à quel moment cette église a perdu cet amour, de se rappeler comment que cette église était là au début, de voir qu'est-ce qui s'est passé avec le temps, pour que cet amour ne soit plus présent. Dans notre propre vie, on doit aussi régulièrement nous arrêter de regarder en arrière, afin de voir peut-être si on a perdu quelque chose, si encore on a perdu cet amour envers Dieu, si cet amour s'est refroidi. Voilà l'importance d'avoir des temps d'arrêt, d'avoir des temps où on fait le bilan de notre vie, un temps où on se retire et on dit Seigneur, regarde où je suis. Est-ce que je suis encore sur la bonne voie? Est-ce que j'ai encore cet amour pour toi? Est-ce que j'ai vraiment cette ardeur pour toi? Puis dans la suite du verset, il va dire, change et reviens à ta conduite première. L'Esprit de Dieu va dire à cette Église de changer, de revenir à sa première conduite, c'est-à-dire de retrouver ce qu'elle avait perdu. L'ordre est très clair ici. Change et reviens. Change et reviens. Ce n'est pas dire, rajoute un peu d'amour dans ta conduite ou ton cheminement chrétien, ou essaie d'avoir un peu plus d'amour. Non, change et reviens à ta première conduite. Nos sociétés nous poussent à aller en avant. Nous disent de ne pas regarder en arrière, dans le sens que ce que nous avions avant est plus important. Et on le voit aujourd'hui, comment que justement la société change, comment que les valeurs changent, comment que la société veut nous faire donner des nouvelles valeurs, même pour nous en tant que chrétiens. On ne veut pas revenir en arrière. On ne veut pas regarder qu'est-ce qui se passe en arrière. On veut toujours aller en avant. Et malheureusement, les chrétiens ont tendance aussi à dire, allons de l'avant, allons de l'avant, sans voir dire, Seigneur, est-ce que j'ai perdu quelque chose en route? La même chose du côté spirituel. On est encouragé à aller de l'avant dans notre vie avec le Seigneur. Et c'est vrai que c'est bon. Mais si nous perdons notre amour, si nous perdons nos véritables relations avec Dieu, alors il vaut mieux de s'arrêter, de revenir à ce que nous connaissions lorsque nous avions connu Dieu. Rappelez-vous ce que nous avons dit auparavant. Une église instruite sans amour est froide.
Oui.
Un chrétien instruit qui est sans amour est froid, est mort. Nous devons voir où nous sommes et se repentir, reconnaître ce que nous avons perdu. Donc l'Esprit va nous dire d'opérer un demi-tour, de changer, parce que sinon la conséquence est dramatique. Sinon, voici ce qu'il dit dans la suite du verset, je viendrai et j'ôterai ton chandelier. C'est-à-dire que cette église va décliner, sera répudiée par le Seigneur. Elle peut toujours continuer d'exister du côté humain. Mais Dieu ne sera plus présent dans cette église. Les chrétiens qui composent cette église, s'ils ne changent pas, s'ils ne se repentent pas et reconnaissent leur manque d'amour, alors ils seront des chrétiens de nom, des chrétiens sans vie, sans que le Saint-Esprit puisse agir en eux. Nous savons que le Seigneur viendra lui-même un jour juger chacun de nous. Va juger aussi les églises, qui peut-être devant les hommes font des bonnes choses, comme on a pu le voir dans le verset 2 et le verset 3. Mais il va juger aussi les chrétiens et les églises qui ne sont plus dans la présence de Dieu, qui ne sont plus sous la conduite de l'Esprit. Prochain diable, on voit que justement, l'apôtre Jean va revenir dans le verset 6, qui dit que cette église déteste les œuvres des Nicolaïtes. Alors, pour ceux qui ne savent pas un peu, d'après Irénée, c'était un des pères de l'Église. Le Nicolas nommé diacre en acte 6 était un faux croyant qui aurait sombré plus tard justement dans l'apostasie et égaré des membres de l'Église grâce justement à la place qu'il jouissait. Un peu comme Balak, rappelez-vous dans l'Ancien Testament, il aurait poussé les croyants justement à l'immoralité et la méchanceté. Donc les Nicolaïtes se livraient à l'immoralité et faisaient assaut des tentations sensuelles contre l'Église. Donc l'apôtre Jean va rappeler, dire oui. Toi, tu détestes les œuvres du Nicolaïte et il se réjouit de cela. Donc, les chrétiens qui avaient bien commencé, mais qui se sont perdus en route et qui n'ont pas eu la repentance de changer, de revenir en arrière, et Dieu va les juger sévèrement. Parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Ils avaient reçu l'enseignement, mais ils ont obéi à leur propre voix, à la voix de l'ennemi qui les a guéris. Et peut-être qu'on connaît, nous aussi, des personnes autour de nous. Des gens qui étaient des chrétiens enflammés dans le Seigneur, mais qui, avec le temps, se sont perdus dans le monde. Ils croyaient encore en Dieu, mais Dieu ne change rien dans leur vie. Dieu n'a aucun impact dans leur vie. C'est juste une croyance. C'est juste superficiel. Alors, ce mot du verset 5 résonne encore. Change et reviens à ton premier amour. Sinon, je viendrai et j'enlèverai ton chandelier. J'ôterai ton nom du livre de la vie. Cet avertissement est dur et il va se faire. Prochain diable. Donc, pour terminer, la lettre se termine par le verset 7, par cet avertissement tellement important que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu. Nous écoutons ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Qu'est-ce que la parole nous dit à chacun de nous? La réponse par rapport à ce que l'Esprit de Dieu dit dans cette lettre nous appartient. C'est chacun de nous qui doit répondre à cette invitation de changer, de revenir à notre premier amour. Voilà pourquoi qu'on parlait beaucoup d'importance du renouvellement de l'esprit. Le renouvellement, on a besoin régulièrement d'être renouvelé pour comprendre réellement quel est le premier amour que nous avons notre Dieu. Qu'est-ce qui peut-être qu'on a abandonné? Qu'est-ce que on a faussé dans notre vie qui ne correspond plus à Dieu, qui nous éloigne de Dieu? Mais il y a une promesse rattachée dans le verset 7. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Cette promesse est encore rattachée pour chacun de nous. Un jour, le Seigneur va venir chercher son Église, va venir nous chercher. Et il va dire, oui, bon fidèle serviteur, bon fidèle servante, rentre dans le repos du Seigneur. Tu es dans ce livre de la vie. Tu as continué d'avancer avec le Seigneur. Tu as continué d'avoir cet amour réel pour le Seigneur. Tu as continué de marcher dans la vérité. Alors je te fais rentrer dans le paradis. Je te fais rentrer dans la maison pour l'éternité. Nous voulons tous un jour recevoir cette récompense. Alors nous encourageons encore ce matin de rester dans cette présence de Dieu, de retrouver peut-être si on a perdu cet amour, ou peut-être si on n'a peut-être pas perdu, mais si notre amour s'est refroidi, si peut-être à cause des difficultés, des souffrances, des problèmes, notre amour n'est plus vraiment complètement téméraire, il n'est plus vraiment là, il est un peu, mais il est un peu vacillant. Mes amis, le message de cette lettre est clair, est précis et complet. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre ce que dit cette lettre. Maintenant, c'est à nous, à chacun de nous, que nous devons répondre de notre Seigneur. C'est à chacun de nous de répondre, oui Seigneur, je veux être ce chrétien travaillant. Je veux être ce chrétien instruit en toi. Je veux être ce chrétien discipliné. Je veux avoir cet amour entier, complet pour toi. Alors simplement courbons notre tête. J'aimerais inviter justement l'équipe de louange de venir et on va simplement reprendre aussi ce chant qu'on a chanté, Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Si peut-être on s'est égaré, on peut revenir à lui. Le Seigneur veut nous inviter ce matin à venir dans sa présence. Tout à l'heure, on va prendre le repas du Seigneur. C'est l'occasion justement de se rappeler dire, Seigneur, je veux demander pardon parce que peut-être mon amour envers toi n'est pas complet. Peut-être que j'ai perdu cette fougue, cette ardeur d'être un véritable témoin. Peut-être que je suis plus dans ta vérité. Instruis-moi, continue, permets que le Saint-Esprit puisse continuer de travailler en nous. Alors simplement, on va prendre une fois ce refrain et ensuite, on va simplement vous encourager à venir chercher les éléments et de retourner à votre place et on va tous les prendre ensemble comme un rappel de ce que le Seigneur a fait. Et le temps aussi de demander la grâce, le pardon de Dieu. C'est là du temps de s'engager envers le Seigneur. Dis, Seigneur, tu as tout fait pour moi. Je veux maintenant m'engager à changer, à revenir en arrière si j'ai besoin. Pour retrouver cet amour, pour retrouver cette ardeur pour toi. Le Seigneur nous connaît chacun de nous. Le Seigneur peut vous dire à chacun ce qu'il a besoin pour vous. Alors nous sommes invités à venir à cette table comme un rappel de ce que Jésus a fait pour nous. Le fait de venir devant cette table montre qu'on veut justement être changé, transformé encore par le Seigneur. On veut reconnaître nos péchés, nos manquements, nos pertes d'amour réel pour Dieu. On veut aussi lui dire notre engagement de le suivre jusqu'au bout. Alors, nous sommes encouragés à venir prendre les éléments et puis vous allez retourner à votre place et on va les prendre tous ensemble. Alors, écoutons cette prière de communion. Nous ne venons pas à ta table, ô Seigneur miséricordieux, avec orgueil et suffisance, et croyant notre propre justice. Nous comptons sur ta grâce abondante et infinie. Nous ne sommes pas dignes de ramasser les miettes sous ta table. Toi, ô Seigneur, tu ne changes pas dans ta miséricorde, parce que tu es amour. Accorde-nous donc, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, de manger à ta table de manière à recevoir en esprit et en vérité, le corps de ton cher Fils, Jésus-Christ. De même qu'il mérite accordé par son sang versé, afin qu'étant lavé et purifié par son sang précieux, nous puissions vivre et croître à sa ressemblance, nous en lui et lui en nous. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, par amour, tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour souffrir la mort à la croix pour notre rachat. Ton Fils qui, par son sacrifice, s'est offert une fois pour toutes, accompli une expiation suffisante, parfaite, totale pour les péchés du monde entier. Nous venons maintenant à ta table par obéissance à ton Fils Jésus-Christ, qui dans son saint évangile nous ordonne de commémorer de façon perpétuelle sa mort précieuse jusqu'à son retour. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et en donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Seigneur, nous te remercions que tu nous acceptes tels que nous sommes de venir devant ta table pour pas simplement juste se rappeler de ce que tu as fait, mais que nous puissions être transformés en ta présence. À travers ce pain, à travers cette coupe, qu'on soit lavé et purifié. Nous te remercions, Seigneur, pour ce corps qui a été brisé pour Tu es mort pour nous donner ton amour si grand qu'on ne pourra jamais assez mesurer toute l'immensité de ton amour pour nous. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions loin de Dieu, tu l'as fait pour nous permettre de briser cette séparation, pour nous rétablir comme des enfants de Dieu. On te remercie pour cette coupe qui représente ton sang, ce sang qui a coulé, qui nous lave de nos péchés. Nous te remercions parce qu'encore aujourd'hui, tu veux encore continuer de nous laver, de nous purifier. Seigneur, à travers aussi ce temps que nous avons regardé cette lettre à l'église d'Éphèse, que Seigneur, tu puisses nous interpeller encore à retrouver ton véritable amour envers toi. Qu'on soit, Seigneur, une église, qu'on soit des chrétiens qui sont païens, qui sont instruits, qui sont travaillants. Une église, des chrétiens, Seigneur, qui ont un amour si grand pour toi. Seigneur, que tu puisses nous parler à chacun de nous personnellement. Que tu nous montres, Seigneur, s'il y a des choses dans notre vie, s'il y a des domaines dans notre vie qui ne sont pas encore à toi. S'il y a peut-être des choses qu'on s'est éloignées de toi avec le temps. Nous te les laissons au pied de la croix. Parce que tu nous travailles. Tu veux nous fortifier. Tu veux nous faire resplendir de ta présence. Alors merci pour tout ça. Merci pour tout. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos corps, vos cœurs et vos esprits dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit sur vous maintenant et à jamais. Amen.
Amen. Amen.